I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Difficile, voire impossible, de conclure ce retour estival sur la saison passée de Programme B sans prendre le temps de s'arrêter sur l'un des sujets qui nous a le plus tenu à cœur au cours de cette année, celui des luttes féministes. En plus d'être une cause dont les objectifs globaux nous paraissent les plus valables, à savoir, en très très résumé, l'égalité salariale, sociale ou sexuelle, il se trouve que ces combats, aux visages multiples, ont connu une large actualité ces derniers mois. Une actualité que nous avons avec grand intérêt suivi et analysé et sur laquelle nous avions envie de revenir. Vous constaterez par ailleurs que la plupart des autres grands thèmes déjà traités au cours de l'été vont à nouveau croiser notre chemin, que ce soit le numérique, le travail ou évidemment la mobilisation, tous ont quelque chose à voir avec ces luttes féministes auxquelles nous consacrons notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Un an après le mouvement MeToo, les femmes descendent dans la rue en force pour exiger des moyens contre les violences sexistes et sexuelles.
Un clitoris géant dans les rues de Zurich.
Retour en France avec ce constat terrible. Depuis le début de l'année, 70 femmes sont tombées sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon.
Ces luttes, elles ont connu ces dernières années un regain de vigueur et surtout d'attention médiatique grâce à ce qu'on appelle très largement la libération de la parole. En gros, l'impulsion née de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo qui offre l'opportunité aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles de parler un peu plus librement, avec évidemment toujours énormément de freins. On en avait notamment parlé au cours d'un reportage signé Noémie Gmur sur ce qu'il en coûte pour les victimes de harcèlement, notamment de prendre la parole. Je me souviens avoir été frappé par le témoignage de Stéphanie Valibous qui avait dénoncé le sexisme dans le monde de la pub.
Une omerta en fait dans la pub, une sorte de silence sur le sujet. Les gens ont peur de parler parce que les gens ont peur d'être considérés comme personnes à problème. Je parle majoritairement de femmes qui sont victimes de sexisme, mais aussi des hommes sur des sujets d'homophobie, tout le monde sur des sujets d'homophobie ou de racisme, ou d'autres remarques négligentes sur du harcèlement moral, etc. Et quand on est contre tout ça, c'est-à-dire quand on s'élève contre ça, on n'est pas drôle. On est la personne colérique, on est la personne relou qui fait des remarques, ça va, on peut pas rigoler avec toi, etc. J'ai été cette personne. Et c'est épuisant de l'être. Il y a un moment où t'abandonnes, en fait.
Malgré ces blocages, la nouvelle génération hésite de moins en moins à prendre à bras-le-corps ces combats féministes pour l'égalité et à les faire entendre. Alors on a eu envie pour cet épisode de savoir quel regard portaient sur ces militantes leurs aînées, celles qui ont ouvert la voie il y a plus de 40 ans. C'est le cas de l'historienne Marie-Jo Bonnet que je suis allée voir et à qui j'ai demandé justement comment elle les percevait.
Pour moi, la nouvelle génération, c'est celle qui a 20-30 ans. Parce que j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes et je les trouve formidables. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'elles nous ressemblent. Ouais. C'est très encourageant. Vous avez des filles qui sont sorcières. Enfin, vous avez... C'est incroyable. Nous, on a beaucoup... comment dire, on s'est identifié aux sorcières, au retour des sorcières. Hein. On défilait dans la rue en 1975 en disant « Giroux, c'est foutu, les sorcières sont dans la rue hein, » contre l'année internationale de la femme, là, de l'ONU. Et donc, si vous voulez, moi, quand je vois que les filles sont complètement fascinées par les sorcières, alors là, je me dis, c'est dingue parce que c'est une transmission qui s'est faite inconsciemment, je dirais. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce réveil des jeunes, parce que là, on peut vraiment parler d'un réveil des jeunes, hein, parce que quand même, les années 70, ça fait longtemps, hein. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui a circulé, qui a agi au niveau de l'inconscient collectif et qui ressurgit. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a une conscience qui est à l'œuvre indépendamment du contexte historique. Vous voyez ? Et c'est bon, bah, c'est la conscience des femmes. Enfin, je veux dire, ça émerge depuis le 19e siècle. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, ça prend du temps, hein. Forcément, parce qu'on ne quitte pas le patriarcat comme ça en 50 ans, ou même par une révolution violente. Donc, si vous voulez, moi, je suis vraiment très enthousiaste. Là, par exemple, j'étais à Rennes la semaine dernière, dimanche dernier, et il y a une jeune féministe qui m'a interviewée. Bah, c'était vraiment nous, ouais. Au même âge. C'est génial.
L'une des nouveautés réelles pour les luttes féministes, c'est, et vous me voyez venir à 10 km, l'irruption du web social dans nos vies. Ces nouveaux outils qui ont au moins une qualité, celle de permettre une expression très large et donc d'opérer une forme de reprise de contrôle. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est du domaine corporel, notamment de la sexualité. On s'est intéressé cette année à tous ces comptes Instagram tenus pour la plupart par des femmes qui proposent une autre lecture des notions de désir, de plaisir ou de consentement. C'est le cas de Jouissance Club, tenu par l'autrice June, que ma camarade Victoire Toyon et moi avions reçue dans ce podcast.
On n'a pas été informés, surtout sur le sexe féminin, hein, c'est, voilà, aujourd'hui on en parle un petit peu plus, mais il y a un gros gros manque d'informations. Vous savez pas tout le nombre de questions que je reçois par jour, des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un clitoris, qui ne savent pas faire la distinction entre orgasme et jouissance, qui ne savent pas ce que c'est que plein de choses.
Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent?
Ce qui revient énormément, c'est est-ce que je suis normale?
Ouais.
Normale. On se demande tous si on est normal parce qu'on est habitué à regarder du porno. Et du coup, je crois que les gens sont en stress permanent de se dire « Ah, ma vulve est pas normale, ah, mon sexe bande pas assez fort. Ah, » Et du coup, ben, ils viennent me demander des réponses et je leur réponds « Mais oui, t'es normal, tout va bien. »
Les outils numériques permettent aussi de former de nouveaux collectifs, de nouveaux groupes pouvant porter ces combats féministes. J'ai demandé à Marie-Jo Bonnet comment elle percevait ces nouvelles plateformes auxquelles sa génération n'avait de fait pas accès.
Ah, mais c'est très différent. Alors là, c'est vraiment une des grandes différences des années 70. Nous, on a, ça a émergé sans moyen de communication, en quelque sorte. C'était le bouche à oreille. C'est très intéressant. Quand on a fait la première manifestation pour avoir l'avortement en 1971, en novembre, hein, bah, la presse en avait pratiquement pas du tout parlé, et puis on s'est retrouvé 3000 femmes dans la rue.
Ouais.
Donc, ce qui était intéressant à cette époque-là, bah, de toute façon, si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est que quand quelque chose est mûr, il n'y a pas besoin de mobiliser les masses médias. Vous voyez ? Et de toute façon, à notre époque, les masses médias étaient entre les mains des hommes.
Oui.
Hein? Ils n'avaient pratiquement pas de femmes. Et quand on faisait une manifestation non mixte et qu'ils nous envoyaient des hommes, on leur disait « Non, 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 vous avez probablement des femmes.
Oui. »
Et alors, du coup, ça les a obligés à mobiliser les femmes journalistes. Et ça a développé la profession de femmes journalistes. Hein? Ça, c'était intéressant. Mais d'une manière générale, même le téléphone, vous savez, ça mettait un an pour avoir le téléphone à cette époque-là. Donc, on a communiqué autrement, par des actions, j'allais dire coup de poing, mais c'était des trucs très, très extraordinaires, parce qu'on avait beaucoup de courage, on était capable d'envahir une manifestation, comme à les mutualités, par exemple, la conférence du professeur Lejeune contre l'avortement, on l'a envahi. Vous voyez ? Et donc, il fallait un courage physique. En fait, comme les femmes, aujourd'hui, elles ont ce courage physique. Moi, je suis très admirative parce que vraiment... Et alors, les médias, c'est autre chose, là, à l'heure actuelle, Facebook et tout ça. C'est un autre type de communication. C'est plus rapide, c'est certain. Avec MeToo, par exemple, on a vu à quel point ça pouvait se répandre. Mais c'est pas pareil. Parce que quand elles font des manifestations Place de la République, il y a beaucoup moins de monde. Vous voyez ? Donc, il y a une espèce de démobilisation au niveau de l'action. Et c'est plutôt le face-à-face individuel avec les masses médias, vous voyez ? C'est pas pareil. Moi, je préfère se retrouver dans la rue parce que, si vous voulez, il y a un côté émotionnel, il y a un côté force collective. Hein? Et là, c'est là qu'on construit la force. C'est qu'en se retrouvant toutes et en faisant, en prenant la rue, vous voyez, ça nous donne du courage. Et alors voilà, aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a beaucoup moins de manifestations. Moi j'ai passé ma jeunesse dans les manifs, hein. C'est vrai, hein. La rue était à nous. Hein. Oui. Et aujourd'hui, la rue, elles sont encore à se battre pour pouvoir circuler librement dans la rue, ce qui est quand même un comble. Ça montre bien que l'espace public est toujours un espace masculin, qui a des espaces, des pouvoirs qui sont quand même toujours entre les mains des hommes.
L'un des grands moments de cette saison, toutes thématiques confondues, ça a été notre suivi de la grève des femmes en Suisse, grâce une nouvelle fois à Victoire Toyon ainsi qu'à Émilie Gasque de la radio-télévision suisse qui avait coproduit notre série de reportages consacrée donc à cette mobilisation des femmes suisses qui sont descendues dans la rue le 14 juin dernier pour demander l'égalité, tout simplement. Ce qui nous avait particulièrement passionné, c'est que cette grève, ça n'était pas la première, puisqu'une autre, similaire, avait déjà eu lieu en Suisse 28 ans plus tôt, en 1991, portée par la génération précédente de Suissesses qui avait grandi, comme on l'a découvert en fabriquant cette série d'épisodes, dans un environnement peu favorable à l'indépendance féminine.
Mes parents, pendant un moment, comme beaucoup de couples, étaient en crise et sont partis en instance de divorce. Et j'avais 14 ans et mon père avait droit de prendre les deux tiers des meubles et des biens de la famille, alors qu'il restait mon frère, moi et ma maman. On était donc trois, lui il était tout seul et il avait droit aux deux tiers des biens. Et ça c'est quelque chose qui m'a fascinée et qui m'a révoltée profondément. Donc c'était matériel au départ. Et puis le désarroi de ma mère dans cette situation, qui me disait, mais tu sais, on ne va plus m'inviter nulle part, et puis je ne serai plus rien, et puis socialement, qu'est-ce que ça veut dire une femme seule? Et de voir ma mère dans cet état, qui était une femme assez indépendante, et qui avait son franc-parler, de la voir se liquéfier à l'idée de se retrouver seule. Et puis, on cherchait les torts à l'époque dans un divorce. Et parmi les torts, il y avait le fait de mal tenir son ménage. Et on appelait les amis de la famille à venir témoigner pour dire qu'effectivement, quand ils étaient venus, ils avaient vu, notamment, je me souviens de ça, de la poussière sur la télévision.
Cette nouvelle grève de juin dernier, elle a été regardée avec intérêt par les militantes féministes françaises et forcément, parmi elles, par Marie-Jo Bonnet, à qui j'ai demandé pourquoi aucune action de ce type et de cette ampleur n'avait encore eu lieu en France. Elle m'a rappelé au passage qu'une tentative du genre avait vu le jour en 1974.
On avait lancé l'idée de la grève des femmes. Dans mon livre sur le MLF, là, je raconte cette expérience qu'on a faite. Donc, grève du sexe, parce que c'est pas uniquement le boulot, hein, c'est la grève du sexe, grève du ménage, grève du travail gratuit, grève et puis dans les entreprises. Là aujourd'hui, elles ne font pas la grève du sexe. Moi, ça me frappe. Ça se limite au travail salarié. Et c'est dommage parce que c'était peut-être trop. Je veux dire, quand on fait la grève du sexe, tout de suite les mecs ils paniquent en disant merde, on va plus pouvoir baiser. qu'est-ce qui va se passer, nos chères femmes? C'est de ça qu'ils ont le plus peur d'ailleurs, la grève du sexe. Mais je pense que ça va peut-être venir. Hein? Pour l'instant, il y a un tel scandale autour de la différence de salaire entre les hommes et les femmes qui est totalement injustifié, sauf d'un point de vue capitaliste, qu'on continue à pomper l'énergie des femmes gratuitement. Et pour les retraites, c'est exactement pareil. Hein? Les femmes, elles touchent, 30% de moins que les hommes. Hein? Donc, c'est complètement scandaleux. Finalement, si vous voulez, c'est le travail gratuit des femmes qui financent le capitalisme et qui financent le néolibéralisme. Donc, c'est quand même un comble. Hein. Et pour revenir à la grève des Suissesses, là, moi, je trouve ça très encourageant. Il y a eu une tentative en France aussi de s'arrêter à partir d'une certaine heure. Ouais. Hein? Moi, je trouve ça bien. Il faut continuer. Il faut que ça prenne de l'ampleur parce qu'il y a quand même quelque chose de très étonnant dans le mouvement syndical. C'est que jamais le syndicalisme a pris parti pour le salaire des femmes. Ça montre bien que c'est une institution masculine également. Hein? Je trouve ça quand même, c'est son boulot de défendre les femmes. Hein? Donc j'espère que les syndicats, bon, aujourd'hui ils sont un peu dans les limbes, mais que ça va se réveiller. En tout cas, bon, on ne peut compter que sur nous en fait, que sur nos propres forces.
Plusieurs fois dans notre discussion, on a mentionné la question de l'avortement, qui est tout sauf un combat du passé, car si les générations précédentes se sont battues pour l'obtenir, celles d'aujourd'hui devront peut-être se battre pour le garder. C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, où les conservateurs gagnent du terrain pour mettre à mal le droit à l'IVG. Nous nous sommes intéressés cette année, grâce à un reportage d'Anouk Perry, au quotidien de celles et ceux qui pratiquent l'avortement en France. C'est notamment le cas de Colette, qui est sage-femme et dont le témoignage nous avait marqué.
Souvent, les gens sont surpris qu'en tant que sage-femme, déjà en face des IVG, avec cette idée que, bah oui, mais quand même, les sages-femmes, c'est la vie, c'est les bébés. C'est... Oui, mais en fait, c'est ridicule. Enfin, être sage-femme, c'est s'occuper des femmes. Et donc, dans les femmes, des fois, il y a des grossesses, des fois, il n'y en a pas. Et quand il y a des grossesses, des fois, elles sont bienvenues, des fois, elles ne sont pas bienvenues. Dans tous les cas, c'est les mêmes personnes qu'on a en face et on est là pour s'occuper d'elle, c'est ça mon boulot de sage-femme. Et souvent les gens voient quelque chose de contradictoire dans le fait de faire certains jours des accouchements et d'autres jours des avortements. C'est quelque chose dans la tête de tout le monde qui a l'air d'être pas simple, alors que moi ça me paraît d'une évidence totale, mais je sens bien que c'est pas partagé comme sentiment souvent. Quand je dis que je bosse en centre de planification familiale et que je fais des IVG, la réaction de beaucoup de gens c'est de dire « Ah oui, ces petites jeunes, c'est terrible !» En fait, les gens ne sont pas si jeunes que ça dans les centres de planning. Enfin, il y a des femmes de tous âges et la moyenne d'âge, elle est plutôt autour, elle est entre 25 et 30 ans. Donc, j'ai des jeunes, voire des très jeunes, des mineurs parfois, comme j'ai des patientes qui ont 40 ans, 45 ans et qui pensaient qu'elles étaient plus concernées. Puis finalement, bah, ça peut arriver. Enfin, c'est exactement ça qui est intéressant dans l'IVG, c'est que ça concerne tout le monde.
Comme elle fait partie de celles qui ont concrètement combattu pour obtenir le droit à l'avortement, j'ai demandé à Marie-Jo Bonnet comment elle vivait le fait de le voir aujourd'hui menacé.
Ah bah, c'est hyper inquiétant, bien entendu. Parce que, en fait, moi, je pense que ça fait partie de la révolution conservatrice. Hein, avec Trump à la tête, hein, qui est en train de mettre de l'huile sur le feu, que ce soit avec les Iraniens ou les Chinois, enfin, c'est démentiel. Et donc, y a des petits dictateurs en puissance qui sont en train de... Des mecs, hein, évidemment, hein, rétablir le pouvoir mâle, hein, qui a été bien attaqué par le féminisme. Ça, c'est un fait. Mais vous avez quand même beaucoup d'hommes qui se sont transformés, je veux dire, parce que ça, c'est quand même souhaitable. Chacun fait son chemin. Nous, les femmes, on a fait le chemin vers l'affirmation de soi, et les hommes vers l'écoute des femmes. Et donc, aujourd'hui, vous avez tous les réacs. Mais en Espagne, vous avez vu les femmes qui se battent, mais c'est extraordinaire. Là, les Espagnoles, mais elles sont d'une culture chrétienne. Catholiques. Donc, elles savent ce que c'est. Hein. Elles ont grandi avec Marie et puis avec l'Opus Dei. Donc, elles sont très combatives. Mais quand même, c'est inquiétant de voir que c'est l'avortement qui est la victime de cette révolution conservatrice.
Ça vous étonne que ce soit directement le droit à l'avortement ait été pris pour cible par cette révolution conservatrice, ou c'était évident tant ça, c'était un droit qui avait été obtenu, on va dire, dans la douleur quelque part.
On s'est battu hein, quand même. Hein. Puis ça a été quand même assez rapide. Mais si vous voulez, c'est après la guerre de 14 que l'avortement a été interdit, hein, parce qu'à cause des grandes saignées, interdiction de la contraception et de l'avortement. Donc il fallait faire des gosses, absolument. J'ai ma grand-mère qui en a fait 5, ma mère... Toujours après la guerre, vous voyez. Donc, moi, je suis dans cet héritage-là. Hein. Au 19e siècle, mon arrière-grand-mère n'en a eu que 2. Donc, c'est intéressant quand même de voir les généalogies féminines. Et donc, si vous voulez, les femmes ne s'appartiennent pas. Enfin, je veux dire, mais la procréation, c'est une affaire d'État. C'est pas du tout une affaire intime individuelle des couples.
Cette saison, nous nous sommes aussi pas mal intéressés aux questions de parité dans les médias, notamment dans nos propres épisodes, mais aussi, évidemment, puisque le terme y est systématiquement associé, de parité en politique. J'avais évoqué cette question avec Claire Guiraud, la secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
La question de la parité, elle est assez parlante sur les résistances à l'égalité, et elle fait un peu tomber l'idée que l'égalité, tout le monde aurait à y gagner. Parce que, en fait, la parité, ben, c'est-à-dire qu'on est quatre autour de la table, à un moment, il y en a un qui doit partir et qui doit laisser sa place à une femme. Et on ne pourra pas rajouter une chaise en plus. Donc, il y a un moment, il y en a qui doivent renoncer à leur pouvoir pour que des femmes puissent l'occuper. Et donc, c'est sûr que c'est là qu'on a les résistances les plus fortes, parce qu'on est vraiment dans le cœur du réacteur, quoi.
Ce qui frappe, c'est que malgré les lois, malgré les volontés affichées en tout cas de changement, les lignes bougent péniblement et la représentation politique des femmes avance très doucement. J'ai demandé à Marie Jobonnet ce qui, selon elle, expliquait cette lenteur.
Ah bah, vous savez, il y a deux choses que les hommes ne veulent pas lâcher, c'est le pouvoir et le sexe. Et donc, c'est vraiment la définition du viril, vous voyez.
Oui.
Donc, le pouvoir, je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de le lâcher. Hein. On a beau faire des... Je veux dire, c'est toute une organisation sociale. Hein. Même, prenez la Révolution française. Nous, on hérite quand même de révolutionnaires qui ont décidé que les femmes n'auraient pas le droit de vote. Hein? Donc, vous voyez, il a fallu deux siècles, enfin un siècle et demi, pour que les femmes aient le droit de vote. Hein. Donc, vous rendez compte un peu le temps qu'il a fallu pour faire évoluer les esprits. Hein? Et donc, c'est très difficile, effectivement, qu'il y ait une véritable parité. Vous voyez la réaction aujourd'hui de la droite à l'arrivée de la jeune... Oui. Mais c'est consternant.
Alors, on entend mal, mais c'est bien de Greta Thunberg dont on parle, la fameuse militante suédoise en faveur du climat. Au moment de cette conversation, on était en pleine polémique sur sa venue à l'Assemblée nationale, accueillie avec tiédeur, voire carrément hostilité, avec une bonne louche de sexisme par un certain nombre d'élus.
Consternant. Alors, ils sont furieux parce qu'elle a tous les honneurs de l'Assemblée nationale et parce que c'est une fille. Donc, de faire donner la leçon par une fille de 16 ans, il ne supporte pas.
Une gamine, on a pu
une
lire.
Une gamine. Mais c'est dingue. Je veux dire, mais qui sont ces mecs? Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte un peu le problème? Hein? Et donc, il est évident que quand il y a des femmes, quand il y a une espèce de... Même 30%, par exemple, de femmes, hein, ben, il y a un changement. Les décisions se prennent autrement.
Mais pourquoi ça prend autant de temps? Moi, c'est ça qui me désespère. Et j'imagine doit être assez désespérant quand on milite depuis aussi longtemps que vous. J'ai l'impression que ça prend un temps infini. Ou alors, est-ce que je me trompe et qu'il y a quand même des victoires et il y a quand même de l'avancement?
Ça prend du temps parce que les hommes ne veulent pas le partager, le pouvoir. C'est ça le problème. Et les femmes ne sont pas prêtes à sacrifier... Je veux dire, une forme de vie personnelle pour conquérir ce pouvoir. Mmh. Il y a les deux côtés, vous voyez? Et donc, c'est là la question du partage. Non seulement le partage du pouvoir, mais le partage de l'argent, des subventions. On paye des impôts comme les hommes, hein? Mais c'est les hommes qui bénéficient de nos impôts. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à réformer, mais c'est long parce que, si vous voulez, il y a une espèce d'inertie. Vous n'avez qu'à voir le mépris qu'il y a autour du féminin, de la féminité, surtout dans l'art. Moi, je viens de faire deux expositions en Bretagne. J'ai repris la question du féminin rebelle pour montrer qu'il peut révolutionner l'art, comme en tapisserie par exemple.
Cette dynamique de l'art que vous évoquiez, c'est aussi un moyen de reconquête quelque part, comme peut l'être aujourd'hui certains usages numériques par exemple que j'évoquais tout à l'heure. C'est par ces chemins-là, peut-être un peu à côté, qu'on reconquiert des choses.
Ah, moi j'y crois tout à fait, parce que le problème c'est que les femmes n'ont pas donné leur point de vue sur le monde. Et l'art, c'est quand même représenter le monde, hein. Représenter l'imaginaire, hein. C'est-à-dire ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes par le politique, par exemple, vous voyez ? Ou même par la religion, hein, parce que l'art, il peut très bien aller du côté du sensible. Hein. Et donc, moi, je crois beaucoup, parce que d'abord, je crois dans le pouvoir créateur des femmes. On en a besoin aujourd'hui. Il faut libérer ce pouvoir créateur. Il y a tout un potentiel. J'ai une amie qui le qualifiait l'or noir. L'or noir, c'est tout le potentiel créateur des femmes. Ça, il va, à mon avis, il va émerger de plus en plus. hein, parce qu'on a quand même de meilleures conditions pour que ça émerge. Donc moi, je crois beaucoup dans le potentiel créateur et on n'est pas au bout de nos surprises, je pense.
Et nous ne sommes pas au bout non plus des épisodes que consacrera cet auguste podcast à cette question des luttes féministes. Parce que vous croyez quand même pas qu'on va s'arrêter en si bon chemin. Merci à Marie-Jo Bonnet pour cet entretien réalisé par Quentin Bresson et préparé par Lauren Bess. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de Programme B que vous avez pu entendre sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à tout bientôt pour le démarrage de Programme B, saison 2. Thank you.